Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous ouvrions l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, nous allons lire dans ce qui est communément appelé le sermon sur la montagne, ces discours que Jésus a laissés aux hommes de son temps et puis à travers tous les temps. Donc, Matthieu, chapitre 7, c'est quelques phrases, quelques mots. J'aimerais y apporter un commentaire, parce que ça valait certainement du temps où Jésus a parlé, mais ça vaut également pour notre temps, et peut-être plus que jamais pour notre temps. Alors, voilà, donc Matthieu 7, verset 15, il est dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà pour la situation de notre réflexion ce soir. Alors quand il est question de faux prophètes, moi j'aimerais leur donner un autre nom, mais ça revient au même. On pourrait dire que c'est un synonyme, c'est-à-dire les séducteurs. Voilà. Ça précise peut-être d'une manière particulière, eh bien, en effet, ces gens, ces personnalités qui ont fait de leur fonds de commerce finalement le mensonge. Voilà. Hein, il y a des hommes de vérité et puis il y a des hommes d'erreur, des hommes qui, en effet, exploitent tout simplement, eh bien, les autres. Et Jésus en parlera sous le terme, de faux prophètes. C'est quelque chose qui était connu du temps de Jésus, parce que dans l'histoire du peuple d'Israël, des faux prophètes, il y en a eu. Il y en a eu des vrais. Des gens qui étaient inspirés par Dieu et qui disaient la vérité, mais il y en avait d'autres. Et le monde est toujours ainsi, hein. Alors, on peut parler justement de séducteurs, hein, de gens qui essaient de séduire, tout simplement, et on a cette parole, je la lis, je complète finalement, il est dit qu'à un moment donné, c'est dans l'évangile, toujours de Matthieu, il nous est dit, les disciples vinrent à Jésus en particulier, je relate hein, tout simplement, je rappelle hein, ce texte, et ils sont venus pour lui dire, eh bien dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et la fin des temps, la fin du monde? C'est ainsi qu'il pose la question. Jésus va tout simplement eh bien leur dire ceci, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc c'est un avertissement important, car plusieurs viendront en mon nom et ils diront « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Alors depuis que la question a été posée, depuis que Jésus a répondu, je peux vous dire qu'il y a eu de l'eau qui est passée sous le pont, hein, et des faux prophètes, hein, des faux docteurs, hein, des séducteurs, il y en a eu de toutes les façons possibles et imaginables. J'aimerais simplement, d'introduction, vous donner quelques aspects de la séduction et des séducteurs. D'abord, il y a la séduction des genres, masculin, féminin, ça a toujours été, hein, ça c'est un petit peu le propre finalement de l'histoire du monde, avec tout ce qui va avec, hein, c'est une vaste histoire tout cela, hein, les hommes et les femmes. Il y a la séduction commerciale. Alors je dis cela parce que certainement pendant longtemps il y avait des principes de moralité dans les affaires, dans le commerce. Vous savez qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, les gens quand ils traitaient des affaires, ils n'avaient pas besoin de papier, ils tapaient dans la main et c'était comme ça. Celui qui faisait des fois sa parole, il était exclu. Hein. Il pouvait toujours y aller, il pouvait plus vendre. Hein. Terminé. Hein, ça se passait dans le monde rural tout ça. Hein. On tapait dans la main, le prix avait été donné, c'est comme cela. Mais maintenant avec l'ère du marketing, c'est tout à fait différent, parce que des séducteurs et des gens qui, comment on les appelle, l'arnaque, hein, les arnaqueurs, hein. Vous savez qu'il faut faire très attention, parce que on achèterait le monde entier, hein. Si on écoutait tout ce qui nous est proposé, on appelle ça des bonimentaires, vous comprenez. Alors on a été habitué parce qu'on a été quelquefois un petit peu trompé sur la qualité des produits, sur le prix, sur tout cela, pour nous apercevoir eh bien que ce sont des séductions aussi, qui peuvent coûter cher, hein, parce que bon, quand il s'agit d'acheter des choses indifférentes de la vie, ça peut aller. Mais quand il s'agit d'acheter des choses qui ont de l'importance, une maison, une voiture, etc., etc., ça, c'est beaucoup plus préoccupant. Et puis, il y a les séducteurs ou les séductions qui ont un caractère d'intérêt, un petit peu comme la deuxième proposition, et qui vendent des systèmes économiques. Ah, on n'est pas si loin de 2008, hein, où vous savez qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu leur retraite, qui ont acheté des maisons, qui ont dû les quitter, et on a dit que c'était formidable, on était dans un siècle extraordinaire, parce que on pouvait tout avoir. Puis après, on s'est aperçu qu'il y avait une vaste opération mondiale, internationale, pour tromper les gens, pour les séduire et les amener à la faillite. C'est terrible, hein ? D'ailleurs, on en souffre encore, on est encore dans cette période. Et puis, il y a eu des grands séducteurs politiques qui ont traversé les siècles, qui ont traversé les temps, et qui se sont dit, ben, si vous croyez en moi, si vous votez pour moi, je suis votre roi, je suis votre président, et vous verrez que tout va aller formidablement. Et puis, au bout d'un certain temps, les gens se sont aperçus que c'était pire, c'était terrible. Et si ce n'était que cela, hein, il y a eu des peuples entiers qui se sont fait séduire, qui ont marché derrière un homme qui les a amenés à la guerre, au sang, au feu, et qui ont été véritablement, qui ont ensanglanté le monde. On les a écoutés. Parce qu'on se disait, cet homme-là, c'est un homme qui dit la vérité. Les gens étaient complètement fascinés, ils étaient complètement éberlués. Ils auraient donné leur vie, ils ont donné leur vie d'ailleurs. Donc, séducteurs, politiques. Et puis, si Jésus nous parle de cela, c'est qu'il y a encore un autre danger, un caractère moral, un caractère beaucoup plus profond, c'est les séductions religieuses. On l'a dans le texte que j'ai cité, hein, quand les apôtres ou les disciples sont venus lui poser la question, mais dis-nous un peu, qu'est-ce qui va se passer, le signe de ton avènement? Eh bien, Jésus commencera par une chose. Il commencera pas par les tremblements de terre, il commencera pas par les famines, par les pestes, par ceci et cela que nous avons dans les trois premiers évangiles. Et il commencera par dire, attention, le danger, c'est un danger qui est invisible. C'est quelque chose qui ne se voit pas comme ça au premier abord. Hein, c'est pas le ciel qui va vous tomber sur la tête. Mais par contre, c'est une séduction psychologique qui va, atteindre votre conscience, qui va atteindre votre pensée, qui va atteindre vos sentiments, votre affect. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux parce que ce n'est pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous-même. Jésus dit, prenez garde à cela. Et ça commencera comme cela. Le premier grand danger que Jésus met en avant, c'est la séduction et les séducteurs. Donc, séduction religieuse, les sectes. Alors, il y en a eu, il y en a, et il y en aura encore. La plus grande de toutes les sectes, elle sera mondiale, à travers la politique, à travers l'économie, à travers une dépravation du genre humain, à travers ce qu'on peut appeler la super-église, où là, il n'y aura plus ni bien ni mal, on mélangera finalement la vérité avec l'erreur, les ténèbres avec la lumière, l'occultisme et tout ce que vous voudrez, et qui a donné les sectes, naturellement, je l'ai dit, avec des gourous. Voilà, des gens qui diront, mais c'est moi, hein, il n'y en a pas d'autres, hein. Regardez comme je suis beau, je suis plus intelligent, je suis le meilleur de tous. Alors, suivez-moi, vous allez voir. Eh oui, vous allez vous en souvenir, hein, ça c'est sûr. Il y a un exemple dans la Bible d'un homme qui avait une renommée extraordinaire, c'était dans la ville de Philippe en Samarie. Pas la ville de Philippe, mais la ville de Samarie. Voilà, excusez-moi, je fais une petite erreur. Et il s'appelait Simon le magicien. Et il nous a dit qu'il séduisait les petits et les grands, parce que c'était un occultiste, c'était un magicien. Et les gens, parce qu'ils n'avaient pas vu autre chose, parce qu'ils n'avaient pas d'autres références, disaient, mais la puissance que cet homme déploie, on l'appelle la grande. Et il les avait séduits, il les avait roulés, il les avait finalement volés. On peut dire ça, parce que tout ce monde-là, ça va toujours avec l'argent, naturellement. Et les gens disaient, mais il n'y en a pas d'autre, hein. Simon, c'est vraiment l'homme qu'il nous faut. Alors, si on réunit tout cela, on s'aperçoit qu'il y a des mots qui sont communs aujourd'hui, hein. Dans les séductions, quel que soit le caractère de ces séductions politiques, religieuses ou autres, C'est des mots que nous connaissons, abus de confiance, abus de faiblesse, par exemple. Voilà. On profite que les gens ignorent. On profite qu'ils soient finalement, eh bien, bien disposés, je ne sais pas comment, mais voilà. La tromperie, ça existe. La fascination, il y a des gens qui... Bah, voilà. C'est comme si le ciel leur tombait sur la tête et ils ne voient plus que cela, ça devient passionnel. Nous, on a vu hein, des gens, hein, on le voit bien sûr dans le monde, mais on l'a vu même dans l'Église. Ah, voilà, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça, c'était bien pour Jésus et la Samaritaine, mais c'est pas forcément hein, un critère de vérité pour les autres. Donc, exploitation de la faiblesse. C'est pour ça qu'il y a des lois hein, pour essayer de juguler tout ça. Charmer. Parce que vous connaissez aussi bien que moi cette maxime, on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Ça ne marche pas. Mais à travers toutes sortes d'artifices, toutes sortes de sortilèges, une forme de, comment dire, d'embobinement. Je ne sais pas si le mot est tout à fait correct, mais toujours est-il que les gens se laissent prendre et ils se disent, ben, ah oui, ben oui, comme ça. Et c'est fou, hein. Les gens sont fascinés. La crédulité, ce que j'ai toujours été surpris, c'est que les gens sont incrédules par rapport à la vérité. Regardez, on pourrait être beaucoup plus ce soir, hein, quand on voit le monde qu'il y a dans la ville, particulièrement. Hein, et qui font des kilomètres et des kilomètres pour... voilà, bon, mais je ne juge pas, je constate. Mais toujours est-il que on s'aperçoit que les gens, pour ça, ils sont tout à fait crédules, voilà. Incrédules à la vérité, crédules à l'erreur, au mensonge, à tout ce qui peut finalement développer chez eux. Et c'est la porte ouverte, naturellement, à toutes sortes de choses mauvaises, dont les faux prophètes et les séducteurs tirent parti, puisqu'ils ne sont pas du côté de la lumière et de la vérité, mais du côté du mensonge et des ténèbres, de l'erreur, qu'ils en soient conscients ou non, mais je pense que dans une certaine mesure, il y a une conscience. Une forme d'envoûtement. Vous savez, le peuple allemand, dans les années 40, 30, il était envoûté, hein. Et au Japon, c'était la même chose. Et dans bien des cas aussi, encore aujourd'hui, on peut parler de la même chose. Vous savez que l'apôtre Paul nous dit des paroles particulières. Je voulais lire simplement pour mémoire. Il dira à un moment donné dans une lettre qu'il écrira aux Romains, il dira ceci. « Prenez garde à ceux qui causent des divisions. » Ça, c'est un critère. « Et des scandales. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des gens simples. » Hey, alors faut être simple, dans la vérité. Mais faut pas être non plus simpliste pour croire n'importe quoi et faire n'importe quoi. C'est toujours Paul qui dira, « Mais Jésus-Christ a voulu que nous ne soyons plus des enfants, que nous ayons une connaissance élémentaire, par exemple. » Flottant et emporté à tout vent de doctrine, parce qu'on vous dira aujourd'hui que toutes les doctrines sont bonnes, d'une manière ou d'une autre. Et en matière de religion, eh bien, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'islam, que ce soit, voilà, ceci et cela, et tout est bon, hein, faut pas y regarder de trop près, hein. On appelle ça un syncrétisme, c'est-à-dire la réunification de tout, et en disant, ben voilà, le monde, l'humanité sera sauvée, on fait un petit peu de tout et on fait la cuisine, en quelque sorte, on met un petit peu les ingrédients de tous les côtés, et vous savez que ça fait vivre pas mal de gens, on pourrait dire c'est la théologie du New Age aujourd'hui, hein. Voilà, c'est le grand mélange. Puis il dira à un moment donné, il ajoutera, mais faites attention à celui qui voudrait vous séduire avec la philosophie ou avec des philosophies trompeuses, illusions, enseignements purement humains, tout élémentaire et mondain, qui n'est pas finalement issu de Jésus, de l'évangile de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Paul avait cette perspicacité, c'était un pourfendeur, on pourrait dire, de faux prophètes, de faux docteurs, et également de séducteurs. Alors voilà ce qu'il dit. Alors, c'est vrai que pour aller plus loin, eh bien, Jésus nous donne quelques critères. Il nous dit, mais attendez, regardez comment ils viennent à vous. Ils sont gentils, ils sont tout doux. Mais il y a quelque chose qu'ils regardent. Ils regardent à autre chose que ce que vous ne voyez pas. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. La brebis est prise... où l'agneau est pris en image comme étant un animal certainement eh bien, très doux, inoffensif, et qui n'est jamais agressif, un agneau, doux comme un agneau, imaginez-vous. Alors, un vêtement, une peau de brebis, comme ça, ils viennent à vous, ils vous passent la main dans le dos, et vous dites, mais qu'est-ce qu'il est gentil, formidable. Et puis après, il fait la comparaison, mais attention, Jésus nous dira, mais si vous regardez un peu plus loin, vous verrez qu'au-dedans d'eux, ce sont tout simplement des loups ravisseurs. Et vous savez qu'un loup, il est peut-être comme un agneau, il a des dents. Enfin, comme l'agneau, il a des dents. Mais attention, hein, ce sont des dents pour tuer, pour dérober et pour détruire, pour ruiner. Donc, si Jésus prend cette image de l'agneau et du loup, le loup et l'agneau, vous connaissez, hein, Monsieur de La Fontaine en a parlé, ça vaudrait un peu la peine d'aller faire un petit tour, d'y retourner un petit peu pour voir et nous souvenir comment ça se passe et comment ça s'est passé. Alors, on voit que Jésus nous prévient, attention, que personne ne vous séduise. Alors, ceux qui séduisent. Quand on regarde de la Bible, dans la Bible, on s'aperçoit que depuis l'histoire de l'homme sur la terre, il y a toujours eu certains personnages qui ont émergé, non pas comme des hommes de vérité, des hommes de droiture, mais des hommes de fausseté, qui avaient certainement au fond du cœur autre chose que ce qu'il doit y avoir au fond de nous-mêmes. C'est-à-dire, eh bien, ce qu'on a dit déjà, hein, des intérêts sordides, hein, tout ce qui est vénal, tout ce qui est intéressé, tout ce qui peut, eh bien, là, faire du mal, en quelque sorte. Je crois que le premier qui apparaît comme séducteur et qui reste le grand séducteur à travers tous les temps, c'est Satan. C'est le diable, on l'appelle comme ça. Hein. Et on pourrait dire qu'il est l'infernal suggesteur, eh bien, de toutes les séductions. C'est lui qui a instillé, qui instille encore toutes ces tyrannies, toutes ces philosophies démentielles, toutes ces puissances séductrices, que ce soit à quelque niveau que ce soit, j'ai cité quelques caractères tout à l'heure, et qui fait tomber les gens, qui entraîne les gens, l'esprit des gens, la conscience des gens à être complètement omnibulés, et qui entraîne les hommes à un stade de passion, où ils sont prêts à faire n'importe quoi, ou donner n'importe quoi, pour réaliser ce qu'on leur a promis et qui est faux, tout simplement. Donc il est le premier. Et ensuite, il a fait des émules, l'adversaire a fait des émules chez les gens. Il y en a un comme ça au fil des histoires de la Bible, on dirait, mais la Bible, comment se fait-il qu'il y ait des gens comme ça? Mais ils sont là pour nous montrer qu'il y a des vrais et qu'il y a des faux. Autrement, on ne saurait jamais qu'il y a des faux. C'est tout à fait logique. C'est pour ça que les choses sont dénoncées de cette manière. Oh, il y a bien un prétendu Balaam. Vous avez entendu parler de lui, hein. Alors lui, c'est à grande échelle, hein, parce que c'est sur plan, finalement, de la nation d'Israël pour la séduire. Hein. Et puis, il y en a eu d'autres comme ça. Hein. Même des sacrificateurs qui étaient des faux. Enfin, des gens qui appartenaient à la religion d'Israël, etc. Alors, des discoureurs, des gens qui ont des belles paroles, mais qui n'ont rien derrière, hein, qui n'ont rien derrière, où rien ne peut être fait. Et Paul dira, eh bien, qu'ils travaillent pour leur ventre, ils travaillent pour leur intérêt, pour leur propre personne, et ils cherchent, pour s'excuser de leur conduite, comme nous, j'ai cité Balaam tout à l'heure, eh bien, de leur mauvaise conduite, à entraîner finalement les autres dans le mal. Parce que c'est le but. Quelque part, c'est de faire dégringoler les autres. C'est de faire tomber les gens. De les prendre au piège. De les prendre dans toutes sortes de ruses. Et là, moi, je crois que quand un homme est séduit, qu'il se retrouve sans rien, spolié, démuni, volé, et que, alors à ce moment-là, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et il se dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire? Et malheureusement, il est trop tard. Vous savez, on entend tous les jours. Et il y a même des émissions, hein, qui sont quelquefois très instructives pour nous amener quelquefois à être un petit peu plus perspicaces. Quand on voit qu'il y a des gens, mais qui se font avoir, mais d'une manière terrible, hein, tant sur le plan sentimental, le plan affectif, sur le plan de l'argent, particulièrement sur le plan de l'argent, puis quelquefois même sur une fascination pour certaines excentricités religieuses ou politiques, on se dit, mais comment? Eh oui, parce qu'il y a un esprit de mensonge. Et il y a un esprit de mensonge parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Autrement, il y a des antitoxines, il y a une autodéfense. On pourrait dire que il y a là, eh bien, finalement des anticorps. Mais pour avoir des anticorps, il faut revenir à l'essentiel. Et si nous demandons, et si nous demandons à Dieu qu'il nous donne un esprit de vérité et l'amour de la vérité, eh bien, on peut s'en sortir. Et je crois qu'il y a des gens, même qui ne connaissent pas Jésus, et qui ont ça à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ces gens-là sont déjà sur le chemin pour attendre le message et l'appel de Jésus. Et ils seront prêts pour y répondre. Mais c'est pas suffisant. Il faut que, véritablement, eh bien, il y ait cette démarche de leur part, et qu'ils croient, en tous les cas. Alors, des séducteurs, il y en a toujours eu. Et les plus dangereux, c'est pas ceux qui viennent vous dire « je suis un menteur ». Il y en a pas beaucoup qui le font, hein. « Je suis un voleur ». Je suis un horrible personnage, alors vous savez, vous pouvez venir à moi, vous allez vous faire dépouiller. C'est pas cela, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on prend pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Mais les plus dangereux, et Jésus relève un petit peu le fait, eh bien, ce sont ceux qui ont des mœurs, tout simplement, qui nous apparaissent bonnes avec des intentions généreuses. Ils disent, ah, je vais vous faire du bien. Voilà. Je voudrais votre bonheur. Je voudrais tellement que vous soyez heureux. Vous savez, moi, je suis né pour faire du bien aux gens. Alors méfiez-vous donc, parce que vous savez, quelquefois, vous pouvez avoir en sortir, comment dire, cabossé. Voilà, avec des bosses. Voilà, tout simplement. Alors ils viennent, ils répètent que toutes les religions se valent. Bien sûr, quand il s'agit d'un caractère religieux, naturellement. Hein. Voilà. Et ils diront, mais vous savez, tout ça, c'est du pareil au moins, au même. Ils vous diront, mais vous savez, tout ça, c'est la même chose. La doctrine, c'est peu important, vous savez. Mais justement, c'est justement là. Parce que si vous enlevez, eh bien, votre bouclier de défense, sur lequel nous pouvons nous appuyer, qui est la doctrine chrétienne, la doctrine de l'évangile biblique, la doctrine de Jésus-Christ, alors à ce moment-là, vous n'avez plus d'armes. Alors ils vous diront, vous savez, la parole de Dieu, ça ne sert à rien, tout ça. Hein. Vous savez, Bouddha, il a dit la même chose que Jésus. Hein. Puis Mahomet, bah, c'est pareil, c'était un brave garçon. Hein. Voilà. Et puis, voilà, on peut le multiplier. Alors, pourvu qu'on ait de la bonté, qu'on ait une bonté naturelle, que l'on soit finalement avec de bonnes intentions, mais c'est bon, on ira tous au paradis, comprenez? Voilà. Alors, il suffit que on pense de temps en temps à Dieu, et ça sera suffisant pour tout cela. Pour que véritablement, eh bien, Dieu se laisse fléchir pour nous sauver, comprenez? Quant au reste, dans leur discours, où ils vous parlent de liberté alors qu'ils sont prêts à vous mettre dans les chaînes, où ils vous parlent tout simplement, eh bien, de largeur d'esprit, ou ce qu'on pourrait appeler de grande tolérance, comme c'est à la mode aujourd'hui. Faut être tolérant, vous comprenez? Bien sûr. Ou alors de fraternité, dans tous azimuts, hein, ce qu'on en parle dans tous les discours, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques ou autres, sociaux, tout ce que vous voudrez. Alors, c'est vrai que ce sont des affirmations séduisantes. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, tiens, ah, moi j'avais pas entendu ça. Ça me plaît. Mais faut vérifier d'abord. Hein. Parce que il peut y avoir un bel emballage. Il peut y avoir de belles couleurs. Il peut y avoir un bel aspect. Parce que vous savez que tout ce qui brille n'est pas d'or. Et quand vous avez enlevé le paquet et l'emballage, vous apercevez que derrière, c'est pourri. C'est terrible. C'est affreux. C'est mortel même dans certains cas. Alors, c'est vrai, devant ces mots, la liberté, la tolérance ou la fraternité et tout ce qui va avec, on pourrait qu'applaudir, et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là et qui se disent « Ah, voilà au moins quelque chose ». Ça serait bien si l'humanité était dans un état normal. Mais il faut le dire, c'est que l'humanité n'est pas dans un état normal. Elle est dans un état anormal, amoral, pour ne pas dire immoral. Et comme tout ce qui est amoral, immoral, et que c'est anormal, alors à ce moment-là, bien, on n'y voit rien du tout. Et c'est le champ libre à tous les séducteurs, à tous les faux prophètes, à tous les faux docteurs, à tous ceux qui gourouillent et consorts. Et tous ces gens-là, eh bien, ils se donnent à cœur joie parce que le terrain est déjà préparé. Il y a certes du bon grain, mais il y a de l'ivraie. Et l'ivraie, vous savez comment l'ivraie se met la nuit, quand tout le monde dort. C'est-à-dire que quand on est un petit peu détaché de tout le reste. Hein. Alors, le monde est malade. Le monde est mortellement malade. Et si on écoute le discours de tous ces gens, eh bien, il suffit tout simplement qu'un peu de progression et de sublimer les choses. Parce que on a quand même la pensée d'éternité dans notre cœur. On a quand même certaines valeurs naturelles qui sont le commun de tous les hommes et puis qui sont vantées aujourd'hui dans notre monde démocratique, hein, le civisme. Bien sûr qu'on l'a tout ça, mais regardez, c'est pas fini. Et on s'imagine qu'avec ça, on va atteindre la vie éternelle, que le bonheur est tout près. C'est pas comme ça. Et tous ces bonimenteurs, tous ces gens qui tiennent ce genre de propos, eh bien, finalement, s'appuient sur tout cela. ils enrobent tout cela. C'est onctueux, c'est sucré, c'est attirant, c'est séduisant, on en a parlé. Et c'est pas ce que la Bible nous enseigne. Elle nous dit autre chose, la Bible. Et on va en parler maintenant, parce que c'est intéressant. La Bible, elle nous parle de chute. Elle nous parle de faillite. Elle nous parle de catastrophe morale, au départ, pour constater que cette catastrophe était universelle et elle atteint tous les domaines de la vie des hommes. Elle nous parle d'un état de perdition sans Dieu. Elle nous parle également de carence spirituelle, parce que c'est l'apôtre Paul qui dira, mais ils sont ignorants de Dieu. Leur cœur est endurci, ils sont inintelligents aux véritables valeurs, à la sagesse véritable. Et nous voyons que la dette qui a été contractée par l'humanité en raison de la chute, en raison de cette désobéissance, nous nous apercevons que fait de l'humanité une humanité insolvable. Personne, elle ne pourra pas elle-même se sortir de l'ornière parce que elle ne peut pas payer. Donc il faut trouver une solution. Ce que véritablement les séducteurs nous arrangent pour nous dire, mais il y a seul moyen, il y a ceci, si vous voulez gagner le ciel, vous pouvez faire ceci et cela, moyennant peut-être quelquefois quelques espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui peut avancer un petit peu la question. Voilà. Bon. C'est comme ça que l'Église historique a quand même... Dois-je dire qu'il y a des fausses doctrines dans l'Église? Dois-je dire qu'il y a des séducteurs? Qu'il y a des faux docteurs? Qu'il y a des enseignements qui sont anti-bibliques et anti-chrétiens? Alors c'est à vous de le constater, hein. Et nous voyons qu'il y a deux mots qui apparaissent, c'est la condamnation, tout simplement, et la mort éternelle, à moins qu'il y ait une initiative qui vienne de la part de Dieu, vous comprenez, et qui nous relève, qui nous ressuscite, qui nous donne une vie nouvelle, qui nous régénère spirituellement. Parce que cette initiative de Dieu, elle n'a qu'un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur de l'humanité. C'est tout. C'est le message principal de l'Évangile. C'est le message principal de l'Ancien Testament dans l'attente et la perspective qu'un Sauveur viendrait. Et c'est la réalisation de ce Sauveur dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on l'a appelé de nouveau l'Ancien qui annonce et le Nouveau qui réalise. Et moi, qu'est-ce que je fais au milieu? J'y crois ou j'y crois pas? Si j'y crois, alors à ce moment-là, je crois à la vérité. Je garde cette vérité. Et la Bible nous dit, bien, il fallait bien que quelqu'un paie puisque nous étions insolvables. Et Jésus a donné sa vie en rançon. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Et dans le mot rédemption, il y a l'idée de rachat. De quelqu'un qui paie à la place de quelqu'un d'autre. Et Jésus n'a pas payé à la place de quelqu'un d'autre, il a payé à la place de tous les autres. À travers les temps, à travers les siècles, la croix du calvaire a été plantée au cœur de l'histoire de l'humanité, elle est plantée au cœur de la Bible pour nous montrer qu'il n'y a pas d'autre salut que le salut en Jésus-Christ. Et dès lors, une religion sans rédemption, où Jésus a disparu, est une religion qui, finalement, qui a manqué. À qui il manque pour être authentique, pour être la vérité, ce qui précisément lui donne un crédit. Et le crédit, c'est notre foi dans ce que Dieu nous dit. C'est le crédit de cette parole, parce que quand Jésus a dit, il l'a fait. Alors que nous les hommes, nous disons beaucoup de choses, mais nous ne le faisons pas, ou nous ne sommes pas en capacité de le réaliser. C'est quelque chose, hein? C'est terrible cela. Alors, je dirais qu'il n'y a que la vérité qui compte. C'est vrai, nous sommes tout à fait convaincus. Mais quelle vérité? Il ne s'agit pas des vérités, il s'agit de la vérité. Or, celui qui a dit de lui-même, et vous le savez, « Je suis la vérité » a affirmé, « Il faut que vous naissiez de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut que vous vous repentiez de vos péchés. » Ce que aucun séducteur, ce qu'aucun faux prophète, ce qu'aucun faux docteur ne dira. On va endormir, on va attiédir la conscience, on va, anesthésier les réactions de l'homme pour dire, mais vous savez, voilà, on va minimiser, on va édulcorer en quelque sorte. Et pourtant, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et quand il nous dit la vérité, il nous a dit que l'homme était perdu et qu'il avait besoin d'être sauvé, que Dieu était tout à fait disposé pour le sauver dans la mesure où l'homme est disposé à croire. On est sauvé par grâce. On n'est pas sauvé par nos mérites, on n'est pas sauvé en donnant de l'argent, on n'est pas sauvé parce que nous sommes fidèles, consacrés à telle ou telle option religieuse. On est sauvé parce qu'on croit, tout simplement. Et c'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés, nous dira Paul. Et il nous dira, mais cela ne vient pas de vous, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un présent de Dieu. Afin que quiconque croit dans ce que Dieu a donné dans la personne de Jésus, eh bien, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je mélange les textes, mais peu importe, de toute façon, ça va toujours dans la même. Et ça, afin que personne ne se glorifie en disant « je me suis sauvé moi-même ». Or, tous les séducteurs, tous les faux prophètes, tous ces gens qui viennent en peau de brebis avec un discours onctueux, mais qui sont des loups ravisseurs, alors viennent avec, naturellement, eh bien, ces propositions d'arrangement pour essayer de tranquilliser ou voire même endormir et tuer les consciences. Ce qui est encore, c'est terrible. Jésus l'affirmera, il dira dans l'évangile de Jean, chapitre 12, me semble-t-il, chapitre 15, ça me revient. Il dira ces paroles, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ouais. Or, les séducteurs disent, « Sans moi, ou sans nous, vous ne pouvez rien faire. » C'est ça la grande différence. Est-ce que c'est l'homme qui parle, avec son mensonge ou son illusion, ou son délire, hein, mystique, religieux, spirituel, ou alors est-ce que c'est Jésus qui, à travers tous les temps, qui à travers le temps où il est venu, jusqu'à maintenant, a bien prétendu qu'il était le chemin, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie, et que nous ne pouvions venir qu'au Père que par lui, tout simplement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors que tous les autres ont engagé les auditeurs dociles de leurs discours et de leurs prétentions dans des labyrinthes, dans des chemins sans issue, qui a terminé souvent dans le désappointement, dans la misère et dans un profond désarroi. Jésus a dit aussi cette parole, ce qu'aucun séducteur dira, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Je peux vous dire qu'ils sont pas prêts de se sacrifier, hein, ces messieurs et ces dames. Voilà. Parce que c'est à travers la mort de Jésus que nous sommes sauvés. Une mort expiatoire. Il dit, mais ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et ce qui nous fait dire que qui se nourrit des paroles de Jésus, de la vérité qui est en Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, qui se nourrit de ces paroles a la vie éternelle. Comme nous pouvons nous nourrir du pain et de tout ce que nous avons autour de nous pour nourrir notre corps et nous faire vivre, eh bien, c'est ça, justement, ce qu'aucun énergumène, on peut dire le mot, eh bien, ne pourra faire. Dès lors, quel crédit, je dis bien, du crédibilité, vous comprenez, quel crédit peut attendre de Dieu la religion qui ne lui présente qu'une sincérité du cœur? Et quand on parle de sincérité, on peut être sincère dans l'erreur. Vous avez des catégories de gens en politique, voire en matière religieuse, qui sont terriblement sincères, voire même tellement agressivement sincères, qui vous couperaient la tête pour dire que c'est eux qui ont raison. Et ils sont pourtant dans l'erreur. Donc ce n'est pas seulement la sincérité qui nous donne la vérité, mais c'est la vérité qui nous amène dans notre conscience et dans notre esprit, dans nos pensées, à être vrai dans notre cœur, à être vrai, et là de là naîtra finalement l'authenticité, la véracité de ce quoi ou de ce qui en qui nous avons cru. Paul dira ceci, je sais en qui j'ai cru. Avant c'était un juif ultra zélé, terrible l'apôtre Paul, enfin Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Il était convaincu, mordicus, que c'était lui qui avait la vérité, que la religion, la seule religion de la terre, c'était les juifs, c'était le judaïsme. Et là, à un moment donné, il est tombé, on en a parlé dernièrement, il est tombé, il a mangé la poussière et là, ses yeux se sont ouverts, les écailles sont tombées. Et il a dit, mais non, voilà, j'étais tellement emporté par ma passion religieuse, par ma folie religieuse, que quelque part, je me perdais moi-même et je perdais les autres. Et là, ses yeux se sont ouverts. C'est là où il s'est converti à Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, c'est un scandale. un juif comme lui. Alors, voilà quelques paroles qui sont propres à nous amener à réfléchir, mais vous êtes au courant de toute façon, naturellement. Et à nous de nous garder contre toutes les séductions dont la fin a pour but d'anéantir tout simplement le prix de la croix. C'est pour ça qu'il y a des religions pseudo-chrétiennes. Je dis bien pseudo-chrétiennes. Il y a le mot religion, il y a le mot chrétien, mais moi j'y ajoute le mot pseudo, c'est-à-dire faux. Des fausses religions chrétiennes. Qui se servent de la Bible, qui se servent du nom de Jésus-Christ, qui se servent du nom de Dieu, qui se servent de toutes sortes de choses. Mais qui, quelque part, enlèvent l'essentiel, c'est-à-dire la croix de Jésus. L'apôtre Paul le dira. Il dira, je n'ai voulu savoir qu'une chose au milieu de vous, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand vous enlevez ça, vous enlevez tout. C'est pour ça qu'il y a des faux. Et les faux ne parleront jamais de Jésus, mort, expiant les péchés du monde, mort à la croix. Non ? Oh, ce sera peut-être un symbole mystico-religieux des croix. Voilà. Des chapelets ou je ne sais quel aussi attirail religieux qui a fait la fortune de ceux qui les ont faits. Tout simplement de ceux qui les fabriquent, mais autrement pour le reste, rien d'autre. Mais dans l'esprit, la croix de Jésus, c'est le centre, et c'est le message que Jésus nous tient, c'est le message des apôtres, c'est le message des premiers chrétiens, c'est le message des chrétiens d'aujourd'hui, qui ne sont pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens qui se sont convertis, alors c'est autre chose. Et si nous prenons ces paroles au sérieux, une conclusion s'impose sur laquelle je vais terminer, c'est que Jésus-Christ, crucifié et ressuscité est l'unique capital qui nous garantisse le salut. Dieu nous a donné un capital qui doit finalement reposer ou sur lequel doit reposer notre foi uniquement. Vous savez ce que c'est qu'un capital? C'est un avoir. En argent, voilà un capital ou matériel. Hein, c'est ça. Et notre capital à nous, le capital des croyants, des enfants de Dieu, des chrétiens, eh bien c'est le salut tout simplement. Et je dirais qu'une religion sans rédemption est un chèque sans provision. Est-ce que vous avez déjà fait des chèques sans provision? Non, c'est pas votre pratique. Hein. Ben, j'espère, parce qu'autrement, vous allez venir me voir après. Hein. On va régler les comptes. Hein. Non, en principe. Mais un chèque sans provision, c'est quand quelqu'un de malhonnête vous dit, tiens, voilà, je vous ai acheté ceci et cela, plus le chèque est gros, plus vous allez avoir mal au... Vous allez avoir mal, mais toujours est-il. Mais vous savez que vous l'a remis, hein, on vous l'a remis en disant, ben, vous avez fait confiance. Et finalement, parce que vous avez fait confiance, parce que vous avez peut-être trop fait confiance, vous avez été trop crédule, vous apercevez que quand vous le présentez à la banque, le banquier va vous dire, ah ben non, mais ce monsieur, nous on le connaît pas, il n'y a pas de compte, il n'y a rien du tout. Alors là, c'est pour vous, tout simplement. Parce qu'un chèque qui est provisionné, c'est un chèque où il y a un crédit sur votre compte et vous pouvez tirer, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez recevoir, tirer, il n'y a aucun problème. Alors je dis bien qu'une foi, une religion ou une croyance sans rédemption, c'est un chèque sans provision. Et Jésus nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non pas à leurs œuvres, non pas à leurs bonnes paroles, non pas à leurs boniments, non pas à les effets de manche. Vous savez, il y a des gens qui savent très bien parler, des beaux parleurs. Mais c'est pas à ça qu'on les reconnaîtra. C'est pas aux œuvres, c'est aux fruits. Et le fruit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la patience. Ce sont des fruits qui n'appartiennent pas à l'humanité, mais dont Dieu nous fait la grâce de nous revêtir surnaturellement, c'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, tout simplement. Parce que vous n'allez pas me convaincre que si vous avez un abricotier chez vous, vous avez récolté des bananes. Je serais fort étonné. Enfin, en tous les cas, si vous en avez, je voudrais bien y goûter. Si elles ont le goût d'abricot, ça sera quand même une nouvelle culture, ça pourrait être intéressant de s'aventurer dans cette dégustation, vous comprenez? La vigne, elle produit du raisin, et les ronces, elles produisent des épines. Alors, j'en dis pas plus, en tous les cas, que Dieu nous bénisse, mais Jésus nous dit, prenez garde d'être séduit par personne. En tous les cas, c'est important ce que nous disons ce soir, parce que c'est vrai qu'il y a tant de gens qui sont crédules, qui devraient être incrédules au mensonge, qui ne devraient pas croire le mensonge, et qui pourraient être beaucoup plus finalement abordable lorsque la vérité leur est présentée et qu'ils disent, eh bien, cette vérité, moi, je la prends pour moi parce que mon cœur aime la vérité et parce que Dieu et parce que je te demande, Seigneur, de me donner l'amour de la vérité. À ce moment-là, vous ne serez jamais trompé. Alors, on va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ta parole. Nous savons que tu l'as dit toi-même dans cette belle prière que l'on appelle la sacerdotale, dans l'évangile de Jean, où tu nous dis, en t'adressant à ton Père céleste, ta parole est la vérité. Seigneur, cette parole de Dieu, elle fait l'autorité de notre foi. Eh bien, je te demande, Seigneur, que tu nous aides à comprendre que, en effet, eh bien, tu nous interpelles encore une fois de plus pour nous montrer, Seigneur, que celui que nous devons suivre, celui que nous devons croire, celui vers lequel nous devons aller, celui qui, en effet, peut mériter, eh bien, d'être, en effet, le vrai guide, le seul digne de confiance, le véritable crédit, eh bien, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Aide-moi, Père éternel, à aimer la vérité. Aide-moi à haïr le mensonge. Aide-moi à être attiré de plus en plus vers le bien et à me détourner du mal, Seigneur, au nom de Jésus, et de faire de mes oreilles, eh bien, là, un outil ou des instruments, Seigneur, qui savent filtrer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et cela, Seigneur, ça se passe au niveau de mon cœur. Alors purifie mon cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.